Bonjour à vous et bienvenue dans ce 54e épisode de Up to Eleven. Ensemble, comme à notre habitude, nous allons nous pencher sur un artiste, un groupe, par le biais d'un seul et unique album. De cet album, j'en extrairai 3 musiques et je rajoute une 4e musique supplémentaire qui peut être un live, un morceau de notre album, etc. etc. La porte est fermée à rien. Alors vous allez voir qu'aujourd'hui cette règle, je vais un petit peu la tordre, mais vous allez le comprendre tout de suite après. venons d'écouter Building the Church. C'est extrait de l'album Where the Wild Things Are de Steve Vai et c'est sorti en 2009. Steve Vai est né en 1960 à Kerr Place, dans l'état de New York. Il est issu d'une famille d'immigrants italiens et on va dire qu'il a quelques petites prédispositions par rapport à la musique. En effet, à l'âge de 5 ans, il commence déjà à s'amuser sur un piano et trouve ça rigolo de faire monter les notes vers le haut et vers le bas. Il se dit « Tiens, on peut faire des choses très intéressantes avec ça déjà à son jeune âge » et il commence à tripatouiller par-ci par-là. On va dire que, comme dirait la page Wikipédia, c'est une véritable épiphanie. Mais c'est surtout à l'âge de 6 ans, à l'école, qu'il découvre son instrument favori, à savoir la guitare. En fait, il voit un petit garçon jouer à la guitare, légèrement plus âgé que lui, et il se dit « Mais c'est cool !» Oui, des fois, là, oui, ça se résume pas à grand-chose. Et il se met à la guitare, et il deviendra le Steve Vai que l'on connaît tous, mais bon, on va pas quand même trop précipiter les choses. Malgré tout, il finira tout de même par être conquis par la guitare en écoutant un morceau pas trop connu d'un groupe pas trop connu, à savoir Led Zeppelin avec le morceau « Heartbreaker ». Quand il découvre ce morceau de Led Zeppelin, il a 13 ans et il se décide, du coup, à prendre quelques petits cours de guitare parce que quand même ça aide. Hein. Et il va chercher quelqu'un qui est pas hyper connu pour l'instant, mais qui le deviendra a posteriori, c'est en 1973, et c'est notre ami Joe Satriani qui lui fait passer quelques cours de guitare et ils resteront d'ailleurs très amis, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Ce ne sera d'ailleurs pas le seul à influer sur le jeu de notre ami Steve Vai. Nous avons par exemple Jimmy Page, donc de Led Zeppelin, nous avons Brian May de Queen, Richie Blackmore de, entre autres, Deep Purple, mais c'est compliqué, hein, comprenez bien, Jeff Beck, et bien évidemment, Jimi Hendrix, parce qu'il en fallait un qui soit hyper connu de chez hyper connu. Malgré tout, à côté de ça, il a d'autres types d'influences. Nous avons aussi le Jazz Fusion avec Alan Holdsworth et Aldi Meola. À l'âge de 18 ans, il continue à vouloir se spécialiser dans la musique. Il intègre alors le Berklee College of Music, ça c'est à Boston dans le Massachusetts, et il en profite pour créer un petit groupe. Avec ce petit groupe, il en profite pour faire une reprise de Frank Zappa, pour être très précis, c'est The Black Page, et il en fait d'ailleurs la retranscription du morceau, parce que à l'époque, enfin, même pas trop souvent, on ne retrouve pas forcément les retranscriptions des morceaux, pour te dire, par exemple, je sais pas, c'est vrai que je prends un roman, j'ai les mots qui sont écrits, mais c'est vrai que pour de la musique, eh ben, il faut en faire des fois une sorte de retranscription, si on veut, une transcription, si on veut pouvoir la reproduire facilement, parce que les artistes, généralement, ils ne donnent pas les clés de comment ils ont fait tel ou tel accord, tel ou tel rythmique, etc. Donc, c'est ce qu'il fait, et je ne sais pas pourquoi, il envoie à Frank Zappa, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si Frank Zappa, il en sait plus, mais en tout cas, il est plutôt étonné, voire très ravi par le talent de Steve Vai, et il décide de le prendre dans un premier temps comme transcripteur, donc pour pouvoir un petit peu mettre ses musiques sur papier. Je pense que c'est pour pouvoir s'y retrouver, parce qu'on va dire que Frank Zappa, en termes de production, c'est un petit peu vénère. En tout cas, notre ami Steve Vai reste quand même un petit peu ambitieux. Quand Frank Zappa propose une audition, il y va, il se dit, bon, il tente rien à rien, et il est reçu. Et il est directement intégré à la bande de Frank Zappa, et il sera d'ailleurs crédité sur certains morceaux comme un cascadeur ou réalisateur de trucs un tout petit peu complexes à la guitare. C'est d'ailleurs pendant cette période de travail avec Frank Zappa qu'il sort déjà son tout premier album solo, à savoir Flexible en 1984. Toujours en 1984, il remplace d'ailleurs Hillwind Malmsteen dans le groupe Alcatraz, Hillwind Malmsteen, qui est un guitariste néo-prog, hein, pour ceux qui, ou néo-metal, pour ceux qui essaieraient de comprendre. Donc, on va dire que sa musique, c'est très... Voilà, un truc de Shredder, pas le mec dans les Tortues Ninja. L'année suivante, il est recruté par un grand nom de la chanson, à savoir David Lee Roth, le chanteur, enfin du moins l'ancien chanteur du groupe Van Halen, qui cherche à reformer un groupe, et il décide de s'entourer de quelques gens qui sont, ma foi, fort intéressants. On pourrait dire, par exemple, qu'il y a Steve Vai, hein, ça je viens de te le dire, mais nous avons aussi, par exemple, Billy Sheehan, qui est lui du groupe Dallas, mais qui sera connu plus tard pour le groupe Mr. Big, donc je vous ai parlé une ou deux fois déjà dans ce podcast. Et à la batterie, nous avons Greg Bissonnette, qui plus tard jouera avec Joe Satriani. Même si tout ça marche plutôt bien, à partir des années 90, même en 90 pile, il se décide de revenir à sa carrière solo, même si il a fait un tout petit remplacement pour le groupe Whitesnake sur l'album Sleep on the Tongue. Pour finir sur ces petits extras, parce qu'après ce n'est que sa carrière solo, on pourra noter qu'il a par exemple travaillé avec Devin Townsend sur le groupe Sex and Religion. Et il a aussi travaillé avec Ozzy Osbourne en 1994 On va dire que ça s'est pas super bien passé parce qu'au final, il y avait Bisbee avec Zakk Wylde, le guitariste de Ozzy Osbourne, et il a complètement réécrit et réinterprété les chansons. Du moins, Zakk Wylde a un petit peu effacé le travail de Steve Vai. Donc, pour sa carrière solo, donc nous avons donc Flex Able en 1984, Passion and Warfare en 1990. En 1993, nous avons l'album que je vous ai parlé, Sex and Religion. Voilà, il est un peu. Voilà, il détonne un peu. Après, nous avons Fire Garden en 1996, Flex Able Left Over en 1998, The Ultra Zone, super bien, en 1999, Real Illusion Reflection en 2005, The Story of Light en 2012 et Modern Primitive en 2016. Pour le reste, on pourrait dire, c'est assez simple, hein, comme vous le savez, Steve Vai, et bon, je l'ai dit au tout début, peut-être que certains ne le savent pas, mais bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai préféré prendre cet épisode comme si tout le monde savait, parce que j'aimerais que tout le monde le connaisse. Et il est reconnu, bien évidemment, pour son immense talent à la guitare, hein. Il fait des trucs que je ne savais pas que c'était possible. D'ailleurs, il fait tellement de... Même avec les explications, des fois, j'ai même du mal à comprendre pour dire que c'est quand même un peu chelou. Alors, il est reconnu, bah, déjà, pour son talent à la guitare. Probablement que certains auront déjà entendu son travail sur un truc qui n'a absolument rien à voir, mais je pense que c'est mémorable, c'est sur la bande-son de Halo 2, alors il a fait deux morceaux, et puis il a réinterprété, donc le morceau de Martin O'Donnell et de Sivaldi, si ma mémoire est bonne, il a réinterprété à la guitare, et c'est d'ailleurs ce morceau qu'on entend quand on lance Halo 2, je pense que chez certains ça parlera quand je dirai Halo 2, et ce, voilà, cette intro qui défonce. Il est aussi, bon, ben, comme je l'ai dit, comme il est très bon guitariste, il devient aussi un ambassadeur d'une marque de guitare. Alors ce n'est ni Gibson, ni Fender, c'est bien évidemment Ibanez, parce que oui, il y a d'autres marques de guitare dans la vie que s'acheter une Telecaster ou une Les Paul. Et donc on retrouve chez Ibanez des guitares signature, hein, parce que tout le monde, en tout cas t'es un très bon guitariste, t'as ta guitare signature. Hein, et on retrouve donc des guitares signature chez Ibanez. Comme chez Ibanez, on pourrait retrouver des guitares signatures d'un certain Joe Satriani ou d'un certain Paul Gilbert. Je n'ai absolument jamais parlé d'eux dans cette émission. Ben tiens, d'ailleurs, comme notre ami Steve Vai, il a des amis guitaristes, et sous l'impulsion de Joe Satriani, il fera quelque chose qui s'appelle le G3. C'est-à-dire que c'est une réunion de trois guitaristes, parce que les mecs sont pas fait chier pour le nom. Et ils ont fait des tournées tout autour du monde, mais par contre, ça changeait un petit peu de temps en temps. Alors on avait souvent Joe Satriani, parce que c'est lui, quand même, la pièce, pas maîtresse, mais un petit peu le galvanisateur de tout cet événement. Mais on a surtout retrouvé, de temps en temps, voilà, comme je dis, Steve Vai, parce qu'ils sont très amis. On a retrouvé, par exemple, alors on a le, si vous cherchez, trois albums du G3. Nous avons un avec donc Joe Satriani et Eric Johnson, c'est le G3 Live in Concert, qui est vraiment excellent. Après, nous avons le G3 Rocking in the Free World. Là, par contre, Eric Johnson a laissé sa place à Ilwin Malmsteen, qui d'ailleurs avait été remplacé par Steve Vai, comme quoi tout est réuni. Et nous avons le G3 Live in Tokyo, qui est bien marrant lui aussi. Donc cette fois, nous avons Joe Satriani et nous avons John Petrucci du groupe Dream Theater. Alors là, si vous voulez un vrai shredder d'un vrai shredder, et là, vous allez être servi. Je vous aurais bien parlé du live duquel nous venons d'écouter la chanson, mais je pense qu'il va être un petit peu temps de passer à la chanson suivante. On en reparlera tout de suite après. Thank you. Nous venons d'écouter Tender Surrender, cet extrait de l'album Where the Wild Things Are, sorti en 2009, et c'était Steve Vai. L'album que nous écoutons aujourd'hui est en fait, comme je dis, c'était un live qui est sorti d'ailleurs en DVD, puis en Blu-ray, enfin surtout DVD, hein, parce qu'à l'époque tu comprends bien le Blu-ray, c'était pas trop ça, et c'est sorti en CD. Alors sur ce CD, nous avons 15 pistes, nous avons Paint Me Your Face, Now We Run, Building the Church, Tender Surrender, que nous venons d'écouter, Band Intros, pour introduire, introduire les gens, je pense que tu as compris, je vais arrêter de dire les trucs dégueulasses, Fireball, Freak Show Excess, Die to Live, All About Eve, Gary Seven, Treasure Island, Angel Food, Taurus Bulba, et Par Bram. Mais attention, ce n'est pas fini en fait, parce que il restait, comme le DVD lui était full chanson, et il en manquait sur le CD, parce que tu peux moins mettre de choses sur un CD que sur un DVD. Donc l'année suivante, en 2010, sort la suite. Alors je sais pas si c'est un digital, je crois qu'il est sorti en version double CD, c'est un petit peu compliqué, moi de toute façon je l'ai chopé également. Donc je me suis proposé autant de questions. Mais cet album est composé de The Crying Machine, The Audience is Listening, je pense que c'est l'un des clips les plus connus de Steve Vai, The Murderer, Juice, Whispering a Prayer, Apples in Paradise, I'm Becoming, Beastly Rap, Earthquake Sky, Liberty, Answers, et pour finir, The Music of notre ami Steve Vai, For the Love of God. Bon, par contre, tu comprends bien, notre ami Steve Vai sur scène, il est pas tout seul, hein, parce que sinon, ce serait quand même un petit peu difficile, il dit alors, mais bon, quand même, voilà. Alors, autour de lui, nous retrouvons, par exemple, à la basse, Brian Beller, que certains peuvent connaître, parce qu'il fait partie du trio magique The Aristocrat, avec Guntry Govan et Marco Minnemann, dont j'ai déjà un petit peu parlé, de Marco Minnemann, avec Steven Wilson, et c'est notre ami, d'ailleurs, Marco Minnemann, il a aussi joué avec Paul Gilbert. Et non, il a aussi joué avec Brian Beller sur un album de Joe Satriani, lui aussi, qui d'ailleurs a aussi joué avec... Ça commence à devenir compliqué, hein, tout ça. C'est complexe, hein, ça n'a pas l'air tout ça. Par contre, visiblement, tout le monde se connaît, c'est un petit peu compliqué. Mais il a aussi joué avec Mike Kinnelly, qui faisait aussi partie de Frank Zappa. Donc en fait, tout ce beau monde se connaît, c'est un bordel, nous n'y comprenons plus rien. À la batterie, on retrouve Jeremy Coulson. Lui, il a joué principalement pour Marty Friedman, Marty Friedman, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'ancien guitariste solo de Megadeth. Un second de guitare et sitar, hein, parce que guitare, sitar, j'aurais pu me tromper. Nous avons Dave Weiner, qui est un petit peu un régulier de Steve Vai. Nous avons pour le lap steel guitar Mark Wensinger. Et nous retrouvons donc au violon et clavier, ça dépasse. Nous avons Alex Depew et Anne-Marie Calhoun. Et tout ce beau monde a été enregistré au State Theater de Minneapolis. Maintenant, nous allons reprendre le cours de l'émission normale. La seconde partie, c'est logiquement cette partie où j'explique comment j'ai rencontré l'artiste ou le groupe en question. Des fois, c'est plus ou moins compliqué. Là, c'est très simple. C'est par le biais, bien évidemment, de Joe Satriani, dont je suis grand fan. Et donc, j'ai pu découvrir le travail en écoutant le G3 ou le G3. Hein, ça dépend comment tu le dis. Pas le G8, hein, ni le G20, d'ailleurs. Mais ça a été une très bonne porte d'entrée pour découvrir ce guitariste qui est quand même assez différent de Joe Satriani. Déjà en termes plutôt de personnalité, Joe Satriani est quelqu'un de plutôt, on va dire, sobre, quelqu'un d'un petit peu dans la retenue, mais quelqu'un de, on sent qu'il est un peu plus timide. Steve Vai est quand même quelqu'un de bien plus exubérant. C'est vrai qu'il a quand même un petit peu ce côté, alors qu'il ne l'est pas du tout, hein, quand on le connaît un peu plus, quand on s'y penche un petit peu, on dirait qu'il est un peu prétentieux, on dirait qu'il est un peu, qu'il est là pour le beau jeu, pour les belles choses. En fait non, c'est totalement un personnage qui s'est fait, quand on le connaît. Voilà, quand on s'intéresse un petit peu plus à lui, pour parler un petit peu mieux français, eh ben, il est déjà excessivement drôle, mais pour de vrai, c'est-à-dire qu'il met des fois des trucs sur... moi, je le vois mettre des trucs sur Facebook ou sur Twitter, mais des fois, je suis plié derrière. C'est vraiment très drôle, voilà, c'est pas un truc qui fait semblant. Et c'est, voilà, comme je dis, il a une vraie approche de la musique. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus baroque, c'est beaucoup plus fusion jazz que Joe Satriani, lui, qui reste sur quelque chose d'aller fois plus blues et plus rock. Steve Vai va chercher des trucs un petit peu plus exagérés, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus tape à l'œil quand même, hein, c'est-à-dire que ça fait partie un petit peu du personnage. Donc c'est vrai qu'on peut être un petit peu quand même assez réfractaire par rapport à son style de jeu, par rapport à sa personnalité, mais c'est vraiment quelqu'un qui est amoureux de la musique, c'est impressionnant, cette capacité de jeu qu'il a. Je pense qu'il a été choisi par les plus grands, ce n'est pas pour rien, hein, parce que quand on est un petit peu adoubé par Frank Zappa, c'est un petit peu une sorte de consécration. Je pense que Frank Zappa, ça reste un petit peu un parangon, un petit peu le pinacle de la musique. Alors c'est pareil, Frank Zappa, faut aimer. Voilà, c'est un peu particulier des fois. C'est un petit peu de la non-musique aussi des fois. Il savait jouer avec son public, il savait jouer encore plus avec la musique. C'était un vrai, véritable personnage. Donc voilà, je pense que si on est choisi par notre ami Frank Zappa, c'est qu'il y a quand même quelque chose à en dire. Et c'est vrai que voilà, Steve Vai, ce n'est pas que de la musique pour guitariste, comme Joe Satriani n'est pas que de la musique pour guitariste. Je pense que certains vont être étonnés par ce que je dis, mais voilà, si vous êtes un petit peu trop sectaire, c'est pas mon problème. Hein. Mais c'est vrai que voilà, sa discographie, elle est un petit peu pas en dents de scie, mais c'est vrai qu'il y a des albums un petit peu moindres que d'autres. Bon, c'est pareil, c'est pareil pour tous les artistes, comme un petit peu de carrière aussi. Hein. Je pense pas qu'on puisse tout réussir de but en blanc. Mais je trouve justement que ces deux lives, côte à côte, hein, du moins ces deux CD ou ce seul live, ça dépend comment vous l'écoutez, et ben je trouve qu'ils résument assez bien la carrière de Steve Vai. C'est un petit peu exubérant, il y a des trucs un petit peu plus personnels. C'est vraiment, voilà, moi je trouve que c'est un artiste, moi je suis un artiste que j'adore, je suis allé le voir en concert il y a déjà quelques années, c'était au Bikini à Toulouse, je me suis régalé, je crois que ça a duré 3h20, je crois à peu près le concert. C'était, je dis pas que c'était pas un peu long, mais c'est vrai qu'un petit peu, parce qu'en plus j'étais assis. C'était un peu rocambolesque, je crois que j'ai jamais vu le Bikini d'ailleurs à Toulouse aussi plein. Je veux dire que j'étais assis à l'étage sur le bar. C'est-à-dire que le bar n'était pas utilisé. Je suis arrivé pile au moment où ça commençait à se remplir. Je me suis faufilé, je me suis mis là sur ce bar pour arriver à voir quelque chose. Je voyais assez bien, moi c'était quand même assez loin. Mais voilà, j'avais une bonne vision des choses. J'entendais plutôt bien le son et je me suis vraiment régalé. Et il nous a fait preuve déjà de son talent musical, de sa musicalité. Et surtout, voilà, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un d'excessivement drôle. Il faisait monter des gens sur scène, il leur faisait faire un petit peu n'importe quoi. Mais voilà, avec une forme de bienveillance, justement. Non, enfin, voilà, c'était vraiment très sympathique. J'ai vraiment bien apprécié. Alors c'est vrai que maintenant, il tourne un petit peu moins. Il est un petit peu pas hors du circuit, mais on sent que déjà l'album de 2016, c'était un petit peu fait attendre. Déjà celui d'avant, Story of Light, il s'était fait un petit peu attendre aussi. On sent qu'il n'est pas sur la retraite, mais on sent qu'il prend les choses avec plus de... Voilà, c'est plus... Il voit les choses différemment. Je pense qu'il est un petit peu sorti du circuit, en bien ou en mal, chacun en pensera ce qu'il veut. Après, je ne vais pas tout vous dicter non plus. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien le revoir un jour en concert, c'était cool, quoi. Je me suis bien régalé. Ça fait vraiment partie de ces gens qui font plaisir. On a l'impression voilà, qu'il est un peu hautain, qu'il est un peu distant, un peu froid. Non, en fait, finalement, parce que le Bikini, c'est pas le plus de salle, c'est pas de salle, quoi, à Toulouse. C'est la... Enfin, c'est pas de salle. On va dire qu'il n'y a qu'un seul niveau au-dessus, c'est le Zénith, hein, le fameux. Donc, c'est quand même le truc le plus gros. Mais quand même, t'arrives à faire des trucs un peu intimistes, un petit peu... Voilà, t'es quand même assez proche du public. C'est vrai que des fois, moi, je suis allé voir Joe Satriani dans des salles un peu... Ben, c'est grand, genre le grand Rex à Paris... Je suis allé le voir, je sais plus si je l'ai vu au Zénith à Toulouse, je sais qu'il y passe au Zénith à Toulouse. Ouais, c'est des grandes salles, mais ça manque d'âme, il y a pas de... Voilà, c'est pas terrible, quoi, c'est pas ouf, quoi. Donc ouais, c'est vrai que ça manque un peu. Après, il y avait la salle du... Comment ça s'appelle? La salle du Casino Barrière à Toulouse, qui était cool, je crois que je me rappelle bien avoir vu Joe Satriani là-bas. Je me rappelle avoir vu Steven Wilson, ça je m'étais régalé. Mais c'est vrai que, voilà, on peut pas toujours non plus tout contrôler, mais c'est vrai que ça fait partie de ces gens à voir un petit peu un concert, parce que ce petit côté un petit peu exubérant qu'il a, cette proximité avec le public, ça fait très plaisir. Et c'est surtout voilà, de la bonne cam en musique. Alors bien évidemment, faut aimer, parce que c'est quand même un peu... c'est un peu baroque. Donc, voilà, faut apprécier. Mais j'espère qu'en tout cas, vous apprécierez. Donc, d'ailleurs, on va s'attaquer le deuxième CD hein, de ce live. Et on va se l'attaquer tout de suite après. We'll be right back. Venons d'écouter The Crying Machine, cet extrait de l'album Where the Other Wild Things Are. C'était toujours Steve Vai, mais cette fois-ci en 2010. Aïe, l'épisode touche à sa fin. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute. C'était toujours bah, Gandalf81, @Gandalf81 sur Twitter. C'était bah, Up to Eleven traditionnel, ça c'est un lundi sur deux, un lundi tous les 15 jours. Et une fois par mois, vous avez le mood. Ça c'est le 11 du mois, hein, parce que je me suis pas tracassé pour avoir des idées en 11, et bah c'est 4 musiques choisies selon mon humeur et mes humeurs. Vous y retrouverez des styles divers et variés parce que j'aime bien faire les liaisons. J'espère d'ailleurs que vous aurez apprécié le son steve-vaillesque parce que j'aime bien utiliser des superlatifs. C'est vrai que c'est pas une musique hein, qu'on savoure forcément de prime abord, mais moi je trouve que voilà, c'est très intéressant de s'y pencher. C'est une musique qui est à la fois très ambitieuse, c'est presque du progressif. On a vraiment eu cette surutilisation de la guitare, je dirais même des fois, parce que c'est un peu complexe, quoi. Il faut vraiment pas être spécialiste, mais c'est vrai que c'est des tonalités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre trop ailleurs. Ça me fait penser quelque part, bon, bah, pas forcément à Joe Satriani, pour prendre un exemple plus frappant. Je pense que si certains ont écouté Rage Against the Machine, nous avons Tom Morello. Alors lui, c'est un excellent guitariste, mais lui travaille pas forcément sur les tonalités sur la guitare, mais sur les sonorités qui sortent en fait de la guitare. C'est vraiment plus spécialiste dans le son. Si vous voulez vous y pencher aussi sur Tom Morello, ça peut être très intéressant. C'est vraiment pareil, quelqu'un qui creuse son sillon dans un instrument précis. Et moi j'aime bien ces gens-là qui un petit peu, comment dire, essayent de sortir de certains sentiers battus par rapport à certaines utilisations d'instruments. Alors moi c'est vrai que je suis un peu plus spécialisé sur la, comment ça s'appelle? Sur la guitare, mais on en a d'autres. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de Marco Minnemann. Minnemann, ouais. C'est vraiment quelqu'un qui lui, c'est un batteur, mais vraiment, j'arrive à reconnaître son groove instinctivement. Il y a quelque chose de. Voilà, il y a vraiment quelque chose derrière qui nous le rappelle. Voilà, bien quoi. Donc, bon, voilà, en tout cas, ouais, j'espère que vous aurez apprécié. Alors, on doit se laisser tout de même avec un tout dernier morceau. Et ce dernier morceau, ce sera probablement le morceau le plus connu de Steve Vai, mais c'est tellement bien fait que voilà, je suis obligé un petit peu de le mettre, quoi. Voilà, c'est For the Love of God. Donc on sera parti de l'église et on aura fini pour l'amour de Dieu. J'avoue qu'en français, ça fait vraiment pas terrible pour l'amour de Dieu, ça fait un petit peu vieille chanson de variété. Mais bon, voilà, c'est quand tu traduis, ça veut dire ça, donc c'est pas terrible. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans Up to 11. Ciao ciao! Thank you.